7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, quand les pères manquent à l'appel, quelles conséquences pour les fils? Comment construire sa vie d'adulte et surtout sa vie d'homme? Guy Corneau, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes psychanalyste canadien, vous êtes de passage en France et on est ravis de vous accueillir dans le studio des 7 milliards de voisins. Vous travaillez sur les pères et l'identité masculine depuis près de 25 ans et vous republiez une nouvelle édition du Père manquant, fils manqué. Alors fils manqué, c'est pas forcément pour décourager tous les fils qui ont manqué de père, mais il faut se construire autrement en tout cas.
C'était pour dire en fait, c'était une boutade, hein. C'était surtout pour dire que des garçons devenant adultes restent en manque de père et de ce regard-là qui
va
les confirmer dans la masculinité et qu'il reste, il y a toute une insécurité qui reste par rapport au rôle. Et par exemple, ça va se manifester quand on a un enfant, est-ce que je vais être un bon père, je vais manquer de père et tout ça. C'est vraiment intéressant
vous
à observer.
Vous venez du continent nord-américain.
Oui.
C'est intéressant parce que votre continent a longtemps été en avance sur l'égalité homme-femme, hein, mais c'est aussi un continent qui s'est très tôt interrogé sur l'avenir de l'identité masculine, ce qu'on fait beaucoup moins en Europe au risque d'être taxé de conservateur. Alors aujourd'hui, en tout cas, c'est impressionnant, notre fil Facebook s'est transformé en véritable complainte des pères absents, inconnus, fugitifs, partis trop tôt ou seulement indifférents. Vos histoires, en tout cas les auditeurs, ressemblent un peu à une maison branlante et racontent un véritable phénomène de société. Guy Corneau, vous allez dialoguer avec les voisins, peut-être donner des pistes aussi pour ceux qui ne veulent pas que l'histoire se répète. Hein.
Tout à fait, c'est ça l'idée. Hein.
Comment écrire une vraie relation avec ses propres fils, surtout si l'on a manqué d'un père? Tous vos appels, y compris celui des mères, bien sûr, n'êtes pas chassés au 33 1 84 22 71 71. Surtout n'attendez pas la fin de l'émission, il y a beaucoup d'appels. 33 1 84 22 71 71. Téléphonez dès maintenant au standard jeunesse. Attends vos appels.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
Tout ce qui nous éloigne quelque part nous rapproche.
7 milliards de voisins.
Je vous lis quelques messages, Guy Corneau. Augustin à Douala, au Cameroun. Je suis un enfant naturel, né sans père. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Mes frères et sœurs avons grandi grâce à Dieu. Cela n'a pas été facile pour nous. Nos oncles nous détestaient à cause de la parcelle de terrain que leur père avait laissée à ma mère. Ils ont tout fait pour nous l'arracher. Ma mère était enseignante catholique et c'est grâce à la foi que nous avons vécu, mais ça n'a pas été évident. Ou encore Antoine, il est à Paris, lui. J'ai eu la chance de grandir avec mes deux parents, mais malheureusement mon père est décédé alors que j'avais 18 ans. Depuis lors, ma famille périclite. C'était un modèle, nous vivions dans son ombre, incapables de reproduire son parcours. La transmission, nous dit Antoine, ne fut que partielle et bien sûr incomplète. Dernier témoignage, Djibril à Kaye, au Mali. Mon père est mort, tué fin 89 au Liberia. Jusqu'en 2010, je le voulais vivant. Il posa les briques de qui je suis aujourd'hui. Sans être responsable de mes écarts, il transmet ce qu'il sait à nous, ensuite de décider pour notre vie et en assumer les conséquences. J'ai grandi, papa. Voilà, il lui parle en direct.
Wow. D'abord, je trouve ces témoignages très, très émouvants, d'une part, déjà. Et je trouve aussi que... Je trouve qu'il faut vraiment, dans ce contexte-là, il faut vraiment se dire, tiens, est-ce que l'absence aussi peut être une opportunité, un tremplin, même d'évolution? Parce que sinon, on est coincé dans le truc. Hein. Mmh. Si on se dit, ça, j'ai absolument besoin du père, et si je me dis encore, j'ai absolument besoin du géniteur, c'est terrible. Donc, c'est toute la question aussi, pas seulement du père, mais des figures paternelles qui sont en jeu. Parce que c'est sûr que des garçons ont besoin de se construire dans le regard de papa, au fond.
Et bien, justement, on va en parler, hein, voilà. De l'absence, mais aussi du rebondir, comme vous dites si bien. Le numéro de téléphone, je vous le rappelle, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
J'ai oublié deux chiffres, hein. 33 1 84 22 71 71, voilà. Guy Corneau, peut-être commençons par le début, mais qu'est-ce qu'un père, dans le fond? Un géniteur, un guide, un modèle, c'est quoi?
C'est tout ça d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'évolution, on pourrait dire, du père. Avant, la fonction paternelle, je veux bien parler d'une fonction paternelle plutôt que du père en tant que tel, parce que c'est aussi des différenciations qu'il faut faire. On parle vraiment de la fonction paternelle dans le sens de celui ou de celle hein, qui va jouer une fonction paternelle, qui va permettre à l'enfant une expression de son talent, une expression de ses capacités, de ses dons, de ses qualités, au fond, qui va le guider, qui va l'accompagner là-dedans. Et donc, il va servir de pont entre la famille et le monde social, en réalité. Maintenant, ce rôle-là, il peut être joué par une mère aussi, éventuellement, ou par une femme qui va assumer des fonctions qui sont plus de cet ordre-là. Alors, on pourrait dire que la fonction maternelle, elle, par rapport à ça, c'est plus de donner une sécurité à l'enfant pour l'aider à prendre conscience de lui-même et confiance en lui-même aussi, et que le père va permettre une extériorisation de cette sécurité, de cette confiance,
au travers de l'expression. Le père doit permettre une expression à l'enfant. Et en même temps, vous racontez bien dans votre livre que les hommes ont du mal à dialoguer avec leurs fils. D'ailleurs, vous êtes parti de ce que les hommes vous racontent en tant que psychanalyste, mais aussi de votre propre vécu.
Mon propre père,
vous avez
grandi
avec
votre aussi.
Père, il y a eu un problème de dialogue quand même.
Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai eu un père vraiment le père silencieux au bout de la table. Je veux dire, je me rappelle même que quand j'étais jeune, j'étais allé dans un pensionnat à partir de l'âge de 11 ans, et je pratiquais des questions. Alors, je venais à la maison le dimanche, je pratiquais des questions qui intéresseraient mon père, pour avoir un petit peu de dialogue avec lui. Il balayait ça en l'espace de 30 secondes, une minute.
Ah oui, et j'étais reparti. Il n'aurait pas fallu l'inviter dans une émission de radio, votre père.
Ah non, absolument pas. Mais par contre, mon père a lu mon livre, en fait. Et il avait 62 ans à l'époque. Et c'était une révélation pour lui, d'une part. Et mon père m'a dit une chose qui a vraiment transformé notre vie. Il m'a dit, tu sais, il dit, je suis un homme simple, je suis un homme rustre. J'ai jamais eu de mots pour mettre sur mes sentiments. Et toi, t'es allé à l'école, t'as des mots pour mettre sur tes sentiments, t'as écrit un livre, et moi, je suis fier de ça. Et c'est la première parole, au fond, de confirmation que j'avais de mon père, parce que mon père, j'avais toujours l'impression que mon père avait été en compétition avec moi, envieux même du fait que j'aille à l'école, alors que c'est lui qui le permettait. Et vraiment, ça a changé notre relation parce que j'ai compris que le silence de mon père était une gêne aussi de vis-à-vis un fils qui était éduqué alors que instruit alors que lui il l'était pas. J'ai compris que moi-même j'avais été dans une sorte de malentendu ou de malentendu culturel par rapport à mon père. Et ça nous a permis d'avoir le même silence, mais un silence beaucoup plus habité d'affection. Et ça me revient à la question de tout à l'heure. Le père, vous savez, c'est vous tout été conçu comme le père, l'autorité, la loi. Mais je pense qu'il y a une évolution de ça. Maintenant, on se rend compte qu'une autorité, une loi, qui est pas accompagnée de compréhension, d'affection. Elle sert à rien. En fait, elle fonctionne pas. C'est une discipline qui fonctionne pas. On va casser des aides comme ça. Alors qu'on se rend compte que des balises et des même les interdits qui sont appliqués, mais avec une compréhension où on peut entendre l'enfant et l'accompagner d'affection, ça marche.
Mais vous semblez tout de même dire que tous les hommes, y compris ceux qui sont éduqués, vivent plus ou moins dans un silence héréditaire.
Oui, je pense qu'il y a vraiment là. C'est très drôle parce que j'ai créé des groupes d'entraide pour les hommes ici en Europe, mais chez nous au Québec beaucoup, un réseau d'entraide pour les femmes aussi. Donc, ce sont essentiellement des groupes de parole. Et c'est très très drôle parce qu'aussitôt que vous dégagez les hommes des questions de pouvoir et de séduction, là, ils parlent beaucoup. Ils parlent de leurs émotions, ils parlent de leurs ressentis. Et en une demi-heure, vous êtes
Alors pourquoi ils parlent pas avec leur fils alors?
C'est un interdit en fait. C'est une sorte de... Comment je vous dirais, l'identité masculine se construit beaucoup par la négative. Ils ont plus d'interactions avec les mamans, avec les femmes qu'avec les hommes. Oui. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont finir par construire leur identité, non pas être comme papa, mais ne pas être comme les femmes. Et qu'est-ce qu'on voit parler pour être en relation, être heureuse, exprimer des sentiments, même prendre soin des autres? C'est les femmes, c'est les sœurs. Et donc, être homme, ça devient ne pas parler, ne pas s'exprimer spontanément.
Mais être un père avec son fils, ça peut être pas forcément parler, mais faire. Autrefois, le père emmenait son fils chasser, par exemple. Bon,
oui,
alors là, aujourd'hui, bon, je sais pas, chez vous, peut-être dans les forêts canadiennes.
J'ai chialé à la pêche, j'ai chassé avec mon père, effectivement.
Oui, ben oui, mais, vous voyez bien.
Oui, mais quand même, il y avait tellement peu d'échanges entre nous que ce silence-là était pénible pour moi, je voulais plus y aller. Mais à la fin de sa vie, c'est le contraire. Je faisais des détours pour passer une journée silencieuse dans une chaloupe avec mon père. Mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que, et là, on a des effets de l'industrialisation aussi. Vous avez beaucoup d'interaction entre les pères et les fils. Vous avez aussi, vous savez, même après, en dehors de la chasse et de la pêche, il y avait aussi la ferme et tout ça. Vous aviez, les garçons avaient la chance d'être
dans l'action avec le père.
Avec le père ou avec des figures paternelles. Mmh. Et d'être apprécié par des figures paternelles et de se sentir confirmé en tant qu'homme en devenir et utile. Et ça, ça se casse avec l'industrialisation parce qu'au fond, c'est les grandes familles qui vont se défaire. Et on va se retrouver des petites familles isolées dans un milieu urbain avec un père qui travaille à l'extérieur. Et là, le problème commence, si vous voulez. Et
le problème commence, les familles monoparentales ne cessent de progresser, un peu sur tous les continents. Vous nous appelez les voisins, si vous avez envie de discuter avec Guy Corneau, si vous êtes un fils manqué ou un père manquant. 33 1 84 22 71 71. Welcome to my earth. It's a crying shame. We have built a foolish world, busy fighting, cruelly lying and denying. My ghosts are not gone. They Now you can feel my heart. Ghost, chez 7 milliards de voisins. Nous parlons aujourd'hui des pères et des fils et de la difficulté du dialogue, entre autres, hein, avec vous, Guy Corneau, et surtout de ces pères absents. Leur père absent, c'est, vous évoquiez la figure de votre père. Ça peut être le père présent physiquement, mais pas suffisamment présent dans le dialogue, dans l'interaction, ou absent, tout simplement, physiquement, disparu. On a de nombreuses histoires, beaucoup d'auditeurs qui souhaitent discuter avec vous. Nous sommes en ligne au 33 1 84 22 71 71. Avec Tiburce qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Tiburce.
Bonjour Emmanuel, bonjour à votre invité aussi.
Bonjour,
Tiburce,
bonjour.
Vous avez 42 ans, vous êtes un papa séparé, hein, c'est bien cela?
Ah oui, oui, j'ai vécu déjà près d'un an et demi, loin de mon fils, qui vit avec sa mère.
Votre fils a quel âge?
Maintenant il a 3 ans et demi.
Donc vous l'avez quitté tout petit?
Vraiment petit, oui.
Mmh. Est-ce que vous avez encore un rapport avec lui, régulier?
Oui, alors, justement, Guy Corneau, vous demandez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, alors, avec votre fils?
Bon, maintenant, nous avons maintenant des rencontres, des discussions, ce qui n'avait pas été le cas il y a un an et demi de cela.
C'est-à-dire que pendant un an et demi, il n'y a eu rien entre votre fils et vous ne vous êtes pas vus, c'est ça, dans la petite enfance?
Aucun contact du tout, oui.
Ouais. Pourquoi? Parce que vous aviez décidé de ne pas le voir? Parce que c'était trop douloureux?
Non, je n'ai pas décidé de ne pas le voir, mais c'est sa mère qui, après la séparation, n'a pas facilité la rencontre.
Ouais.
Elle ne voulait pas du tout que je puisse le voir.
Oui, une forme de vengeance?
Effectivement.
Alors aujourd'hui, comment vous faites pour essayer de recoller les morceaux, Tiburce?
Maintenant, j'essaie d'être plus présent. Quand j'ai l'occasion de le voir, j'essaie de discuter avec lui. Parce que il faut reconnaître que pendant que je n'étais pas présent, on m'a rapporté des faits où il était très hystérique, souvent colérique, lorsque des autres pères venaient prendre des enfants à la crèche. Lui, souvent, il était très menaçant, souvent méfiant. Devant les gens, je me suis dit que c'était sûrement à cause de cette absence-là.
Oui, oui.
Donc maintenant, je vais m'approcher plus, j'essaie d'être plus présent.
Oui. Guy Corneau va vous parler, hein, Tiburce, restez en ligne avec nous.
Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de cas, effectivement, de garçons qui découvrent à la crèche en fait que les autres ont des papas que eux on n'en ont pas. Et là, les problèmes commencent. Souvent, là, vous parlez de réaction hystérique de l'enfant, mais il y a aussi des fois des problèmes de violence, hein, où même l'enfant va s'attaquer aux autres qui ont des pères parce que la réalité du père lui fait trop mal. En fait, la réalité du père le tue. Et je vous félicite d'avoir repris le contact parce que vous savez, le père séparé, c'est pas la fin de la relation père-fils. Au contraire, parfois, cette séparation-là va donner justement au fils une vraie relation avec le père, une relation de qualité, et même si elle est moins, si vous êtes moins présent, s'il faut vraiment tenir à ça, l'enfant a vraiment besoin de vous pour beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est entre autres d'être capable de se séparer, un des rôles du père dans sa fonction, c'est de séparer l'enfant de la mère et la mère de l'enfant, pour qu'effectivement, il y ait une sorte d'autonomie qui puisse se produire chez l'enfant et lui permettre effectivement de s'élaborer aussi en tant qu'identité dans un monde sous un regard d'homme, ça serait vrai pour une petite
fille
aussi.
Alors Tiburce nous disait, j'essaye de parler beaucoup, il y aurait d'autres choses importantes à faire avec un enfant qui a 3 ans aujourd'hui, qui en reprend le contact.
Jouer. Et là, vous êtes chanceux, votre enfant, vous
dites, il y a 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans,
les enfants rentrent dans un monde, justement, ils parlent plus et ça devient super intéressant, mais aussi, ils sont dans un monde beaucoup plus symbolique, donc jouer avec eux à toutes sortes de choses très fantaisistes avec la parole, mais aussi, bien sûr, c'est aussi à un âge, à 3 ans, où les enfants demandent beaucoup d'interactions physiques avec le père.
Les garçons, surtout.
Surtout. Il faut surtout pas hésiter, parce que c'est essentiel pour eux, en plus, pour apprendre à maîtriser, eux, leur énergie masculine, leur décharge d'adrénaline, la testostérone et tout ça. Donc, je trouve que vous êtes dans le bon mouvement. Et je voudrais quand même souligner quelque chose dont vous avez parlé. Cette séparation-là d'un an, 1 an et demi, voulue par la mère.
Dans la petite enfance,
précisons-le. Ça arrive souvent. C'est souvent un réflexe des mères à ce moment-là. Et il faut vraiment, je dois dire aux hommes de pas se laisser placer en situation de père empêché. Il faut maintenir la relation. Et je sais que des fois, il faut piler un petit peu sur son orgueil. Mais il faut maintenir le lien.
Père empêché. Donc, lutter contre cette fonction de père empêché. Tiburce, c'est ce que vous avez fait. Bon courage et merci pour votre témoignage. Nous accueillons Franck qui est à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Franck.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes un fils qui a grandi sans père?
Tout à fait, Emmanuel. Donc, quand j'avais l'âge de 10 ans, c'était un peu difficile pour moi de voir des enfants autour de moi qui parlaient de leur papa en bien, et les cadeaux, ils allaient nager. Bon, moi, j'étais là, je pouvais rien dire, du mien. Donc, ça a été un peu difficile pour moi. Et j'ai donc demandé à maman pourquoi est-ce que je n'avais pas de papa, pourquoi je ne connaissais pas mon papa. Elle m'a dit, bon, en fait, si tu n'as pas de papa ou si tu ne connais pas ton papa, c'est parce qu'en fait, lui, il n'a pas voulu de toi. Donc, au moment où elle m'avait conçu, le papa, il ne voulait pas de moi. Il a demandé à maman de faire un avortement. Elle a refusé. Et donc, là, ils s'étaient séparés. Elle m'a raconté que ça m'a fait mal. Bon, elle a développé à moi une certaine haine envers ce monsieur. Parce que ce n'était pas vraiment mon papa pour moi, c'est un monsieur.
Et voilà, vous dites que vous avez développé quoi envers ce monsieur, Franck?
Une certaine haine.
Oui, une certaine haine.
Parce que lui, il voulait pas que je m'aime. Plus de moi, il avait un moment d'avorter parce qu'il ne voulait pas que je vienne au monde, en fait. C'était ça.
Et vous l'avez rencontré finalement, hein, Franck?
Oui, je l'ai rencontré par le biais de la maman. C'est-à-dire qu'il était professeur dans un lycée de la place.
Donc, vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré? Vous avez 23 ans aujourd'hui.
J'étais à 18 ans, j'avais 18 ans. Voilà.
Et aujourd'hui?
Donc, nous sommes allés. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Voilà. Et donc, nous sommes allés au lycée, on s'est rencontrés. Et là, j'ai pu voir qu'il n'y avait pas une certaine envie en lui de me rencontrer. Parce que ce n'était pas du genre émotionnel, c'était juste du genre comment ça va, c'est l'école, ça avance. Bon, il ne m'a même pas pris dans ses bras. Bon, j'ai compris qu'en fait, il n'a pas de moi et qu'il ne dépendait pas de moi jusqu'à ce jour-là. Donc, c'est passé comme ça. Et par le fait du hasard, par le hasard des choses, je me suis retrouvé élève dans ce lycée dans lequel il était professeur.
Ah, oui, pas simple.
Dieu merci. Oui, Dieu merci, n'a pas été mon professeur. Mais néanmoins, lorsque je le fais à distance dans l'établissement, moi, j'ai changé de route. Parce que déjà, lui, il n'avait jamais voulu me chercher. Il m'avait jamais cherché pendant toute cette année. Et moi aussi, j'ai décidé de ne pas le chercher. Voilà, et comme dit le chanteur Thierry Gems, à partir de ce moment, cela a développé à moi une certaine rage de vaincre.
Mais vous avez construit votre vie quand même, hein, la façon dont vous en parlez tout de même. On sent bien que les choses sont claires dans votre tête, Franck.
Bah oui, elles sont plus claires.
Merci pour votre témoignage, Franck. Je suis désolée, mais il faut qu'on rende l'antenne pour le flash. Guy Corneau a des choses à dire. On va peut-être vous reprendre juste après le flash, hein, et une analyse aussi de Guy Corneau. Vous restez avec nous. Suite de l'émission sur les pères manquants et les fils manqués. C'est juste après le flash. Vous continuez bien sûr à nous appeler. Nous prenons vos témoignages dans 3 minutes. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des pères et des fils aujourd'hui. Comment devenir un homme quand on a manqué d'un père ? Guy Corneau, psychanalyste canadien de passage en France, est dans le studio de 7 milliards de voisins. Vous publiez, Guy Corneau, vous republiez, c'est un livre qui a eu un énorme succès il y a plusieurs années, Père manquant, fils manqué, que sont les hommes devenus aux éditions de l'Homme. Et bien sûr, vos appels au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis un message de Kalilou qui nous dit « Moi, j'ai grandi avec mon papa. Croyez-moi, c'est plus que super. Nous avons partagé des souvenirs inoubliables. Je ferai en sorte d'être à mon tour un papa super pour mes bambins, car mon papa m'a tout enseigné. Merci, papa. » Si c'est pas un message d'amour, ça, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Camille nous dit « J'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. » C'est un garçon, hein, je crois. « Depuis lors, quand un ami perd son père, je ne ressens aucun sentiment de déception. Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. »
Ben, c'est-à-dire qu'il a dû se couper. C'est une blessure, une peine qui était trop forte. Alors, pour pas trop ressentir, c'est ça qu'on fait. On se coupe de certaines choses. Alors, ça lui, c'est une bonne indication pour lui, hein. Si un ami perd son père et tout, lui, il peut plus rien ressentir et ça lui montre le degré de coupure, la peine qui est en jeu derrière tout ça. Et la distance qu'il a par rapport à cette peine-là, la neutralité qu'il éprouve lui parle, en fait, de ce qui a été occulté ou refoulé. Et ça vaut la peine d'aller jouer là-dedans pour que lui retrouve la vitalité ou que retrouve même la saveur de la vie.
L'émotion
autour de ça. Mais on peut peut-être revenir un petit peu sur Franck. Je peux lui parler un petit peu.
Franck nous a appelé juste après le flash. Hein. Il a grandi sans père. Il l'a rencontré à l'âge de 18 ans.
Oui.
Et il y a eu
un
père très froid, très indifférent.
Alors, je voulais d'abord donner ma compassion à Franck par rapport à ce vécu, mais aussi lui dire que ce père-là, c'est pas Franck qui l'a refusé, c'est le fait de devenir père.
Est-ce que la mère a finalement commis une erreur en disant la vérité? Ton père ne t'a pas souhaité, il a voulu que j'avorte, j'ai refusé d'avorter, moi je te voulais, ton père ne t'a pas souhaité. Elle a dit la vérité finalement.
Elle a dit la vérité, je ne sais pas si je l'aurais formulé comme ça, hein, ça serait très différent de dire par exemple, l'homme qui était ton père ne voulait pas être père, ou ne voulait pas avoir une famille, ou ne voulait
pas... Oui, ce n'est pas envers toi-même.
Ce n'est pas envers toi, alors que là, c'est ne t'a pas souhaité, c'est très direct, hein, et c'est... alors que cet homme-là connaissait pas l'enfant à naître, au fond.
Mais le choix des mots a une importance.
Le choix des mots a tellement d'importance parce que les mots restent imprimés en nous, hein. Et malheureusement, on se regarde soi-même comme on a été regardé. C'est ça qui est terrible de nos enfances.
Alors, justement, il y a une question de Sarah, hein, autour du père inconnu. Là, on a beaucoup de questions autour de ça. Elle est à Nouakchott, en Mauritanie. Elle nous dit qu'elle a un garçon de 10 ans qui ne connaît pas son père. Je ne sais pas comment faire pour lui dire qui est son vrai père. Entre-temps, je me suis mariée. Donc, mon fils a deux petits frères. Il sait qu'ils ne sont pas du même père, mais il ne me pose pas de questions. Et d'ailleurs, je ne saurais pas quoi lui dire s'il me posait des questions. Et en plus, on ne vit pas ensemble, nous dit Sarah, puisque son fils, le fils de père inconnu, entre guillemets, est avec mes parents. Donc, il appelle mon père papa et ma mère maman. Alors, comment on démêle tout ça ? C'est un cas assez classique, hein, sur le continent subsaharien, des gens qui nous écoutent.
Au moins, c'est intéressant qu'il ait des figures, qu'il appuie dans ce petit garçon. Mais là, on voit l'inventivité des enfants aussi, hein, c'est-à-dire qu'eux vont se trouver des parents substituts. Parce que souvent, on réagit aussi en tant qu'adulte en disant, mon Dieu, c'est terrible ce qui va lui arriver, mais on compte pas assez sur l'inventivité des enfants qui, effectivement, se trouvent des pères de remplacement, des figures de remplacement. Les garçons qui ont manqué de père, par exemple, ça serait intéressant de questionner Franck là-dessus, s'il n'avait pas eu des amis un peu plus vieux que son âge, par exemple. S'il n'y avait pas eu des figures même à l'école ou des frères de la mère qui ont joué un rôle important pour lui, qui ont permis quand même une certaine construction.
C'est ça, c'est ce que vous appelez la figure paternelle.
Exactement.
Qui peut être un oncle, un cousin, un homme plus âgé.
On est élevé par plusieurs pères, en fait, hein, par plusieurs figures. Mais c'est vrai du côté maternel aussi. Et c'est heureux parce que ça fait que si les histoires justement personnelles sont trop dramatiques, ben ça se diffuse un petit peu. On peut s'appuyer ailleurs. C'est très très important. Mais par rapport à cet enfant-là, que ça a pas l'air d'être une préoccupation pour le moment. Je suis sûr que ça l'est quand même pour cet enfant-là, mais
alors il faut attendre la question ou il faut prendre les devants d'ailleurs.
Je pense que là il a 10 ans. Je pense que je prendrai tranquillement les devants, mais doucement en disant par exemple. Bah peut-être ça. Tu poses jamais de questions sur ton père. Est-ce que t'aimerais connaître ton père? Et là, faut aussi écouter l'enfant. Non, non, ça, je veux pas en entendre parler maintenant. Il faut respecter ça. Et peut-être qu'il plus tard, il voudra en entendre parler. Il faut juste montrer une ouverture, une porte ouverte pour. Parce que quand même, il faut savoir que les non-dits, les secrets, sont quand même des choses qui affectent beaucoup les enfants et les familles et la construction d'identité des enfants. Alors, mieux vaut au fond vivre des fois avec certaines réalités, vérités qui sont plus dures à entendre, mais qui vont quand même obliger l'enfant à une certaine créativité, une mesure d'adaptation aussi. Le pire hein, dans tout ça, c'est que les enfants vont rentrer dans des sortes de suradaptation. Ils se détachent d'eux-mêmes pour avoir de l'amour, avoir de la reconnaissance et tout ça. Et ça, c'est plus compliqué, mais ça se défait aussi dans la vie. Ça peut se refaire.
Nous filons au standard 33 1 84 22 71 71. De nombreux voisins et voisines souhaitent discuter avec vous, Guy Corneau. Nous accueillons Gladys qui est à N'Djamena au Tchad. Bonjour Gladys.
Bonjour Emmanuel.
Gladys, alors vous êtes mère de famille, vous élevez seule votre fils.
Oui, oui, c'est bien ça.
Ça veut dire que votre fils n'a pas de papa?
Si, il a de papa, il est là dans la même ville que nous.
C'est ça, mais vous êtes séparés. Quelle est la relation du coup de votre fils avec son papa? Il le voit de temps en temps?
Il n'est pas mon papa, à qui je dois tout. Et à mon tour, je n'ai pas vraiment peur d'élever seuls mes deux enfants, c'est-à-dire une fille et un garçon. Et comme ça concerne les garçons aujourd'hui, moi, je lui transfère tout cet amour paternel que j'ai reçu de mon père et je me bats chaque jour pour son éducation. Donc, je fais tout pour qu'il ne se sente pas frustré à cause de l'absence de son père.
Ouais.
Il vient parfois, mais il ne prend pas du temps avec son fils.
Ah oui.
Ça, c'est... Ça frustre l'enfant.
Ouais, il s'intéresse pas assez à son fils. Alors, vous, Gladys, vous nous entendez bien?
Je suis là avec lui.
Gladys, maman, j'ai l'impression que vous nous entendez pas. Il y a un petit problème avec la ligne téléphonique. Gladys, en tout cas, ce que j'entends dans votre témoignage, c'est que l'amour que vous-même vous avez reçu de votre père, vous le transférez sur votre fils et vous jouez un peu au père et à la mère, les deux rôles. Est-ce que c'est faisable, ça, Guy Corneau, et à quelles conditions?
C'est faisable, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait effectivement que Gladys, par exemple, trouve, elle l'a peut-être déjà fait, des substituts d'autres figures, peut-être un frère à elle, donc les oncles de l'enfant, ou un grand-papa, par exemple, hein, qui veut jouer un rôle plérécis. C'est très intéressant de rentrer à ce moment-là dans un modèle de tutorat, c'est-à-dire un homme adulte et dans une relation de sécurité qui est prêt à donner une attention particulière à cet enfant-là. C'est simplement pour que lui se sente confirmé dans un regard d'homme et donc confirmé dans sa masculinité et qu'il puisse évoluer avec une certaine confiance là-dessus parce que c'est difficile hein, ces cas-là où tu vis dans la même ville et tu vois pas ton père où il y a très peu de relations avec toi, ça garde des fils très très en attente et c'est ce que je décris dans Père manquant, fils manqué, hein, c'est comment tous ces fils, au fond, vont être appelés à tantôt jouer les héros, à tantôt jouer les garçons qui sont toujours en défaite, à jouer toutes sortes de rôles, au fond, pour tenter de trouver de l'attention de la part du père ou de la part des autorités. Hein. J'ai connu moi-même, c'est sûrement pas le cas des enfants de Gladys, qui a l'air très présente, mais j'ai travaillé avec des jeunes de la rue et tout ça, et j'ai travaillé en prison, et tu as toujours des cas de père, justement, absent ou de négligence ou d'indifférence du père. C'est toujours ça derrière.
Oui. Et ça veut dire qu'il faut donc un peu détourner l'attention de l'enfant sur cette tristesse-là et trouver notre fonction paternelle ailleurs.
En tout cas,
pas rester bloqué là-dessus.
Et aussi pour permettre à Gladys de souffler un petit peu là-dedans, parce que c'est difficile de jouer deux rôles en même temps. Et je dis pas qu'elle peut pas le faire.
Il y a beaucoup de mères qui nous disent qu'elle joue les deux rôles.
Oui,
enfin, ça sera un autre sujet d'émission.
Oui.
On s'y essouffle, comme vous dites. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Cissé.
Oui, bonjour Emmanuel.
Cissé, alors vous avez connu votre père très tardivement, je crois.
Oui. Et actuellement, moi j'ai deux enfants. Je me suis marié. Et j'ai mon enfant a 22 ans. Et moi, je me suis construit seul, avec l'aide de ma mère, de ma grand-mère. Je n'ai jamais senti l'absence de mon père. Et bon, le hasard aussi a fait que, sur le plan professionnel, je me suis même retrouvé dans la même boîte que lui où il est passé.
Ah, que votre père?
Oui.
Oui.
Et qui vit actuellement en France.
Oui.
Et bon...
Mais du coup, vous aviez des relations professionnelles ou vous ne vous croisiez pas physiquement si vous êtes à Dakar, si c'est...
Mais non, moi j'ai jamais su même que la branche que j'avais empruntée, c'est cette branche-là que lui, il avait fait.
Ah oui, oui. Mais alors, à quelle occasion vous l'avez rencontré? Vous l'avez rencontré tardivement? Vous étiez déjà père de famille?
Après avoir fait plusieurs recherches, et on s'est parlé au téléphone et tout. Et on s'est rencontré quand j'ai eu ma fille, qui a actuellement 5 ans. Alors, et depuis lors, bon, on s'est parlé.
Vous dites que vous n'avez jamais ressenti le manque de père. Oui, Guy Corneau, ça vous intrigue, ça?
J'ai une question pour vous. Mais vous, qu'est-ce que vous avez éprouvé comme père? Est-ce que vous avez eu des difficultés à être père? Ou quelle sorte de père vous êtes et quelle sorte de père vous avez été pour vos enfants?
Non, parce qu'actuellement, comme je vous dis, je me suis pensé, j'ai une famille.
Oui, c'est ça.
J'ai deux enfants. L'une, la plus grande, elle a 5 ans.
Oui.
En dehors de celui qui est en France actuellement, qui a 23 ans.
Oui.
Je suis célibataire.
Oui.
Et j'ai un fils, un garçon, qui va avoir bientôt 1 an.
Oui. Et vous avez du plaisir à être père. Et vous jugez que vous êtes un...
Ah oui, je m'attache beaucoup. J'ai laissé mon travail pour mes enfants. Pour m'occuper uniquement de mes enfants.
Ah oui. Et y compris avec votre fils, l'aîné?
Oui, bon, l'aîné, je l'ai eu. Et au moment où je m'apprêtais à faire mon bac, alors j'avais pas le choix, j'avais pas les moyens de m'occuper de lui. J'étais obligé de laisser tout tomber et d'aller chercher du travail.
Mais ce que j'aimerais souligner, en tout cas, c'est que, effectivement, vous savez, le fait de pouvoir conscientiser un petit peu le manque ou la souffrance par rapport au manque de père, fait en sorte qu'effectivement, on n'est pas obligé de répéter la même histoire de silence et de rupture. Alors, je trouve ça très intéressant que vous soyez investi auprès de vos enfants jusqu'à arrêter votre travail, ou en tout cas, et parce que c'est quand même une des réponses que la vie nous offre, c'est d'offrir ce qu'on n'a pas reçu. Et l'importance de ça, parce que ça aussi, ça permet de continuer une construction et ça permet sûrement de continuer l'ouverture du cœur chez les hommes. Parce que le problème chez les hommes, c'est que le cœur se referme sur des blessures et le silence dont vous parliez au début, le silence s'installe là-dedans et c'est pas une bonne idée.
Vous faites souvent des conférences au Japon, entre autres, vous faites des conférences dans le monde entier,
oui,
Guy Corneau, mais vous me dites qu'au Japon, les pères travaillent énormément, les mères sont au foyer, et on a au bout de quelques années des couples qui ne sont pas séparés. C'est ça.
Absolument, oui, c'est ça, ils continuent ensemble.
Et les pères?
Les pères sont comme absents, vraiment absents en fait de la maison et même finissent par être par la famille elle-même reçus comme des étrangers chez eux dans leur propre foyer.
Alors comment se construisent les fils au Japon justement avec des pères qui sont tout le temps au travail?
C'est-à-dire qu'au Japon, vous avez quand même une sorte de patriarcat extérieur qui tient encore un peu la route. Donc, il y a quand même un modèle
virtuel.
Oui, qui formate quand même encore l'identité masculine. Dans beaucoup de nos sociétés, ça a éclaté, ou c'est en plein éclatement, cette image-là.
On le constate, c'est pas simple. Je voudrais qu'on donne la parole à une auditrice qui nous appelle de région parisienne. Bonjour, Bénédicte.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Bénédicte. Vous nous appelez, je rappelle le numéro quand même, au 33 1 84 22 71 71. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Oui, bonjour. Je vous remercie donc de prendre mon appel. Je souhaitais partager une situation que un certain nombre de parents vivent, peut-être dans une grande solitude, dans un grand isolement. Je suis mère de 3 enfants et le papa de mes enfants a été incarcéré il y a 3 ans. Donc ça s'est fait très brutalement, très violemment. Et pour un nombre d'années encore qui s'annonce long. Voilà, mon fils avait 15 ans au moment de cet événement. Il a poursuivi sa scolarité de manière normale. Mais avec des troubles psychologiques et affectifs très importants que j'ai essayé par mes propres moyens de consolider, conforter. J'ai cherché des relais
Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vos enfants ont la possibilité de visiter leur père en prison? Il y a des associations qui s'occupent de ça, qui s'occupent de maintenir ce lien entre les enfants et les pères incarcérés.
Moi-même, je les accompagne au-delà de l'épreuve que cela représente pour une maman. Je pense que ce qui aide mon fils à s'en sortir, c'est de l'avoir mis en relation avec des référents masculins, maîtres de stage, professeurs, oncles, qu'il ait des repères à défaut d'un père.
Repère à défaut d'un père. Guy Corneau, vous souhaitez prendre la parole. Mais
d'abord, je voudrais vous honorer, rendre grâce à ce que vous êtes en train de faire. Effectivement, vous avez eu un très bon réflexe de trouver des repères à cet enfant-là à côté de son vrai père, parce qu'il a encore un père. Et au-delà du fait que cet homme soit emprisonné, il reste quand même que c'est un être humain, d'abord avant tout, et que l'affection peut encore s'échanger, ou les regards. Vous savez, c'est un drôle d'enseignement qu'un père en prison peut donner à un fils, mais c'est aussi la route à pas suivre, et c'est aussi un enseignement valable. Je pense qu'il faut le respecter, il faut respecter le rien, il faut respecter les réactions du garçon. C'est sûr qu'à 15 ans, c'est ça qu'on se rend compte avec les recherches qu'on a là-dessus, vraiment la puberté, le début de l'adolescence sont des âges extrêmement fragiles pour les enfants, parce qu'ils vont, eux, aller vers le monde extérieur, puis ils ont besoin de sécurité pour le faire et de confiance. Alors c'est sûr que c'est un coût important, et donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu des problèmes à ce moment-là au niveau scolaire, mais je trouve que vous êtes vraiment sur la bonne voie quand vous dites « je cherche des référents », et au lieu d'avoir peur, vous savez, on entend tellement d'histoires, c'est pas possible, au lieu d'avoir peur qu'un coach soit homosexuel et qu'il l'entraîne là-dedans et tout ci ou ça, il faut vraiment faire confiance, et ben bon, il faut pas être naïf, mais il faut faire confiance, parce que les enfants au fond lient des amitiés, nous des relations avec des êtres plus vieux qui leur permettent vraiment
de construire une identité. Nouveaux repères masculins.
Il faut vraiment faire confiance, et il faut, sans être naïf, comme je le dis, il faut même avertir l'enfant. S'il y a des choses qui te semblent un petit peu bizarres, ben c'est mieux qu'on en parle, et peut-être que ça va être inadéquat. Mais si ça l'est adéquat, faut vraiment encourager, mais vous avez vraiment, vous, la bonne attitude et le bon réflexe. Je veux vous féliciter au lieu de vous refermer, de pas avoir peur, et je trouve ça aussi, c'est sûr que c'est difficile d'aller en prison avec les enfants, mais il reste quand même que, vous savez, on apprend à travers toutes sortes. Nous, chacun de nous, on continue notre route. Vous aussi, comme femme, mais on apprend à travers toutes ces expériences-là à devenir des êtres humains qui vivent d'abord avec le cœur et à faciliter la convivialité et l'amour au fond entre les êtres. Et vous êtes en train de faire quelque chose de très honorable.
Bénédicte.
Oui. Je vous remercie pour ces paroles très fondamentales, qui sont précieuses à tous les parents qui sont confrontés à cette situation.
Vous continuez à parler, évidemment, j'imagine, du père à vos enfants. Hein.
Oui, ils ont un contact régulier avec
c'est
lui.
C'est ça, c'est très bien.
C'est ce qui fait la complexité de la situation, un contact téléphonique, et qu'il y a une récurrence qui leur permet de maintenir le lien. Néanmoins,
c'est parfois un peu douloureux, j'imagine, en même temps.
Il doit faire le deuil d'un père, le deuil physique de l'absence du père. Lorsqu'ils raccrochent le téléphone, parfois ils embrassent le téléphone et après ils sont dans le chagrin pour de nombreuses heures. Donc en tant qu'adulte responsable,
il faut vivre avec ça aussi.
Voilà, sans arrêt, je dois leur donner l'élan pour surmonter ces créneaux.
C'est à la fois un chagrin, comme vous dites, et une nécessité pour pas couper avec le père,
Les
Corneaux.
Non, c'est absolument nécessaire. Et vous savez, je dois aussi vous dire quelque chose. En fait, la façon dont les mères et les pères aussi parlent du conjoint absent, la façon que le respect que vous gardez à cet homme et le maintien du lien, c'est très, très précieux pour les enfants, peu importe ce qu'on peut juger extérieurement. C'est extrêmement précieux. Et même s'il y a du chagrin, vous savez, ce chagrin-là qui est accompagné par vous, ça permet quand même aux enfants de s'ouvrir le cœur, d'être peut-être, ce sera des enfants qui auront moins de jugement, vous savez, sur les autres dans leur vie. Et il faut qu'en reste quand même que des hommes comme votre mari sont des hommes qui sont meurtris. C'est ça que les enfants doivent savoir aussi, que tout ça vient d'une meurtrissure, d'une blessure de cet homme.
Bénédicte, on vous souhaite évidemment bon courage, et surtout, merci beaucoup de nous avoir appelés pour nous faire partager cette histoire difficile, mais je pense qu'il y a d'autres femmes qui se reconnaissent. dans ce témoignage-là.
Voilà.
Merci.
Un grand merci.
Merci à vous. Bonne journée en région parisienne. 33 1 84 22 71 71. Julien souhaiterait dialoguer avec vous, Guy Corneau, et vous soumettre probablement aussi des interrogations dans sa fonction paternelle. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour, Emmanuel.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin. Alors, je vais résumer votre histoire. Vous avez grosso modo grandi avec un père absent. Vous êtes vous-même père aujourd'hui, c'est bien cela ?
Oui, exactement.
Et c'est pas facile.
C'est pas facile. D'abord, je commencerai par saluer M. Guy Corneau.
Bonjour.
Bonjour, je salue les voisins et voisines.
Oui, moi aussi, je suis honoré de parler à tant de gens de si loin, c'est fantastique.
Alors allez-y, Julien, il nous reste peu de temps.
En fait, moi, d'après ce que ma mère m'a raconté, elle était tombée enceinte très jeune, mon père aussi était jeune, et leurs parents respectifs ont été très durs avec eux. Mon père, lui, il a préféré partir, rester dans un autre pays, et n'est plus jamais revenu. Mmh. Et donc, j'ai fait toute mon enfance et tout mon cursus scolaire sans lui. Et à l'université, j'ai rencontré une fille, et elle est tombée enceinte de moi. Et bizarrement, on a connu pratiquement les mêmes problèmes que mes parents.
Bien sûr.
Mais moi, je suis resté, j'ai assumé mes responsabilités de père jusqu'à ce que les trucs se tassent.
Oui.
Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'avec mon fils, je ne suis pas tel que je vois mes autres amis avec le fils.
Oui. Quel âge a votre fils, là, Julien ?
Il a 4 ans.
Et quand vous dites que vous n'êtes pas exactement comme les autres pères, qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est-à-dire, je sens une certaine complicité, un certain type d'amour, une grande fierté et tout, quand je vois mes amis avec leur fils. Et moi, c'est pas pareil. Et par exemple, la mère de mon fils, elle me reproche de ne pas témoigner assez d'amour à l'endroit de mon fils, malgré tout ce que je fais, les cadeaux et tout ça. Bon, je ne comprends pas. Et beaucoup me disent, certains amis me disent, alors je me dis sûrement il y a un problème.
Mais témoigner de l'amour, ça veut dire quoi ? On vous reproche par exemple de ne pas prendre votre fils dans les bras, de ne pas l'embrasser, de lui faire un câlin, c'est ça que vous ne faites pas ?
Voilà, peu comme ça. C'est-à-dire, j'arrive pas à faire ce genre de truc. Je trouve ça bizarre en fait.
Oui, mais moi, mais d'abord, donc, faut quand même souligner que vous êtes resté présent dans une histoire difficile. Vous n'avez pas répété l'histoire de votre père, mais c'est vrai aussi que vous n'avez pas connu ça avec votre père. Et dans ce sens-là, c'est tout à fait des nouveaux gestes pour vous. Vous avez connu de l'absence. Et là, c'est vrai que vous vous exprimez un peu traditionnellement, hein, comme les pères d'autrefois. Mon père nous touchait pas non plus, puis il nous parlait pas. Mais et quand même, effectivement, alors il y a peut-être à écouter ça, écouter même la difficulté par rapport à faire ça. La conscience de la difficulté est aussi intéressante, vous savez. Vous pourriez très bien dire à votre fils, écoute, j'aimerais ça être plus près de toi, jouer plus ou te toucher plus, mais j'ai pas été élevé comme ça et c'est un peu difficile pour moi. C'est toutes sortes de choses. Votre fils a 4 ans, il peut entendre toutes sortes de choses, mais effectivement, peut-être de trouver des espaces de jeu, vous savez, le jeu même avec les petites autos, avec toutes sortes de choses, hein, les enfants ils jouent avec tellement de choses, des espaces de jeu avec lui pour vous apprivoiser à cette réalité et peut-être suivre certains exemples, imiter certains de vos amis, mais surtout vous respecter quand même là-dedans, d'y aller à votre rythme à vous, c'est extrêmement important et je veux juste vous dire que c'est déjà important que vous soyez en train de faire ce que vous faites. Vous êtes là, vous tenez le lien, vous exprimez un peu différemment et pourquoi pas, il faut vous dire pourquoi pas dans cette histoire-là.
Vous êtes déjà une forme de héros finalement. Hein? D'abord vous êtes resté, vous êtes là, vous élevez votre fils et puis est-ce qu'il y a vraiment un père idéal dans le fond
Non, mais aussi on est sorti de la répétition,
exactement.
On est sorti de l'absence.
Bon, vous êtes sur le bon chemin en tout cas, Julien, bonne chance, merci beaucoup pour votre témoignage. J'en prends en dernier appel, il nous reste très peu de temps. Bonne journée à Cotonou, Julien. On accueille Marie qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Marie.
Bonjour.
Il nous reste 2 minutes, vous avez la parole Marie.
Alors bonjour, moi j'ai une question pour Monsieur Guy Corneau.
Corneau.
Corneau, pardon.
Allez-y Marie.
Alors ma question c'est, vous dites que l'enfant c'est un fils manqué si le père est absent. Mais dans mon cas, moi, je préfère que le père soit absent parce que j'ai un fils de 3 ans actuellement et le père est exactement le schéma de son père à lui.
C'est-à-dire ?
Donc, à savoir dans une carrière militaire extrêmement violent, alcoolique.
Ouais.
Voilà. Bon. Il souhaitait absolument cet enfant Et voilà, ça s'est dégradé très vite. Donc, pour me protéger, moi et mon enfant, je préfère qu'il soit absent.
Merci pour cette question. On va y répondre parce que vous l'évoquez dans votre livre, hein, Guy Corneau, le schéma du père trop autoritaire, trop violent, le père alcoolique, etc. Le père qui manque vraiment à son...
On a besoin et de la présence et de la qualité de la présence. Donc, les deux. Dans ce cas-ci, peut-être, ça vaut mieux effectivement qu'il soit pas là. Il reste quand même quelques interrogations du fils par rapport à ça. Il a 3 ans, il va en avoir, hein, de plus en plus. Il faut lui dire, expliquer un peu vos choix, que son père est en difficulté et que vous avez préféré faire ce mouvement-là. Peut-être que lui voudra le rencontrer. Vous savez, toutes sortes de choses sont possibles. Mais je parle dans Père manquant, fils manqué, je traite beaucoup de la masculinité, mais dans mon deuxième livre qui s'appelle « En France, n'y a-t-il pas d'amour heureux », je parle il y a plusieurs chapitres sur les rapports mère-fils. Il y a des réflexions aussi sur le rôle de la mère qui se retrouve tout seule avec son fils. Et je pense que vous pourriez trouver beaucoup de pistes là, très intéressantes pour vous. Certains écueils, si vous voulez, à éviter au niveau de la fusion avec le fils. Et des choses aussi à faire, hein, comme Gladys nous disait tout à l'heure, trouver des références, des figures paternelles. Mais pour en parler plus, je donne une conférence samedi à Paris.
Voilà, samedi, on va sur votre site, hein, guycorneau.com, on aura le lieu à Paris pour venir sur Père manquant, fils manqué, qui est paru aux éditions de l'Homme. Juste un mot de conclusion, on a le sentiment aujourd'hui, peut-être plus que les femmes, que les hommes ont du mal à se situer, à la fois par rapport à leur père et par rapport à leur rôle de père eux-mêmes.
Hein. Ben, moi, ce que je trouve fantastique, oui, les hommes ont des difficultés à se situer, c'est une grâce, parce que on était pris dans un modèle avec des références masculines assez tordu. Je veux dire, c'était quoi être un homme? C'était avoir du pouvoir, du contrôle sur le sexe, l'argent, les relations et tout ça. Alors que là, effectivement, il y a une transition, il y a plus de difficultés, mais ça permet un questionnement, ça permet d'être toutes sortes de pères aussi. Hein?
Voilà, les questions sont ouvertes. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans le studio de 7 milliards de voisins. Père manquant, fils manqué aux éditions de l'Homme. Et puis, il y a cette conférence à Paris le 31 janvier. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Jonas Malé-Solars, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins. Comment va l'école en République démocratique du Congo? Le ministre Makamwangu Famba sera en direct pour dialoguer avec vous, parents d'élèves et lycéens, au 33 1 84 22 71 71.